French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Ici, je trouve que les gens qui ont réussi, on les regarde, on leur pose des questions, on est admiratif. En France, on est un peu envieux, on est un peu jaloux parfois. Voilà, il y a une belle voiture, on va la rayer.
On n'ose pas dire qu'on a réussi.
On n'ose pas dire qu'on a réussi, c'est un peu tabou. C'est très très différent. Alors qu'ici, je trouve que les gens, voilà, et comme tu dis, il y a une culture où l'échec et les gens, moi, les gens avec qui je parle, qui ont réussi mille fois plus mieux que moi, prennent beaucoup de plaisir à me raconter les fois où ils ont vraiment merdé. Voilà, ils sont plantés complètement. Donc, alors qu'en France, je sais pas si c'est à l'éducation ou vraiment l'échec est voilà quoi. Excuse-moi le langage, mais t'es un peu une merde. Alors que ici, c'est accepté. Les gens, si on écoute n'importe si vous écoutez les histoires de Warren Buffett, Ray Dalio, ils vont tous vous parler de comment ils ont merdé au début. Et je trouve ça extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là américain. Mais c'est très difficile parce que je pense que tu dois ressentir ça. Et je pense que tous les gens qui ont quitté leur pays un peu plus tard se ressentent que quand on rentre en France on est plutôt américain et quand on est en France quand on est en Amérique on se sent plutôt français.
Tu te sens encore décalé ici un peu
Je me sens pas décalé forcément mais parce que comme je disais dans la mesure où les gens sont quand même faciles à parler à s'entendre avec mais ouais, il y a quand même des fois où je me sens un peu plus français, je pense, dans la façon de penser. Et vice-versa, quand je regarde un peu ce qui se passe en France, je me sens très américain. Ouais, donc, on est un peu entre les deux. Donc, c'est pas facile pour moi de répondre à cette question. Ouais. Ça dépend.
C'est pas facile, en fait, parce qu'on se sent même un peu perdu, en fait. Enfin, tu vois, c'est genre, OK, j'appartiens où, en fait. Mm-hmm. Moi, c'est pareil, toute ma vie d'adulte, je l'ai faite aux États-Unis, sans rentrer dans des considérations philosophiques, mais... Qui suis-je ?
Non, mais c'est ça, c'est vrai. C'est
et du coup,
ça.
En sachant qui t'es, qu'est-ce que je transmets à mon enfant, à mes enfants, dans ma famille ? On est samedi matin, je suis dans la petite ville de Highlands Ranch, au sud de Denver, dans le Colorado. Il fait beau, je dirais pas qu'il fait chaud, mais il y a un grand ciel bleu, si caractéristique du Colorado ce matin. Et j'ai rendez-vous avec Ben dans une petite boulangerie de la ville. Et je suis un petit peu en avance, ce qui, je dois bien vous l'avouer, n'arrive pas souvent. Donc je vais en profiter pour aller m'installer et installer mon matériel. Vous venez avec moi ? Si on n'a jamais rien raté dans sa vie, alors on ne peut pas vraiment réussir. C'est en somme la philosophie de Ben, mon invité de la semaine. S'il ne l'a pas conscientisé tout de suite, Ben Baranes a su très tôt que sa vie serait ailleurs. Après avoir grandi en région parisienne avec ses parents et son frère, c'est finalement grâce à l'aide de sa grand-mère qu'il s'envole direction la Californie pour faire ses études. Une nouvelle vie donc, de nouveaux repères, et si la distance de sa famille est parfois difficile à vivre, Ben adore ce nouveau quotidien ensoleillé. Aujourd'hui dentiste, établi à Denver, Ben revient sur son parcours, qui n'a pas été un long fleuve tranquille, mais qui l'a amené là où il est aujourd'hui, heureux et entouré de sa famille dans son nouveau pays, un pays dans lequel il se projette pour la vie. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
Non, I'm good.
Okay.
Do you want
silverware?
No. Thank
you.
That
looks good. Yeah. Comment tu vas?
Ça va très bien et toi?
Ça va.
Merci. Ça va?
Bah, ça va pas. Merci beaucoup de m'avoir. Je suis hyper content. C'est vachement gentil. Avant qu'on commence, si tu pouvais me dire qu'est-ce qui fait un bon épisode contre un mauvais épisode au niveau de l'invité, des tips pour que ça puisse être le mieux possible.
Vas-y, je t'écoute.
Salut.
Bonjour.
Est-ce que samedi, c'est le jour de la grasse mat d'habitude?
D'habitude, oui.
C'est vrai?
D'habitude, c'est l'heure où je me lève et là, je suis déjà assis avec toi. Donc, vraiment, j'ai fait un effort exceptionnel.
Ouais, je te remercie.
Voilà, merci.
Je te remercie. Alors, on est aujourd'hui dans le Colorado. Ça fait combien de temps que tu es dans le Colorado?
Je viens d'arriver au Colorado en juillet. Mm-hmm. J'étais en Arizona avant. Ma femme est originaire de Denver. Donc, ça a toujours été un plan pour nous de revenir à un certain moment.
Et pas inconnu, du coup, j'imagine que tu connaissais un peu le coin.
Je suis venu quelques fois déjà pour Thanksgiving, Noël, pour voir un peu ma belle famille. Et ouais, on est vachement contents pour l'instant. Et j'ai eu une opportunité qui m'a amené ici professionnellement.
Alors, on va revenir là-dessus dans un instant. Mais j'aimerais bien revenir carrément en arrière. Attention, je n'ai pas dit que tu étais vieux. Mm-hmm. Mais tu as quitté, toi, la France avec quoi, 18, 20 ans?
J'avais 18 ans quand j'ai quitté la France.
Ouais.
Je pense que ça a été l'expérience la plus difficile de ma vie.
Pourquoi tu es parti?
Pourquoi je suis parti? J'ai une réponse un peu longue, Anne-Fleur. Est-ce que
écoute,
je peux te donner une réponse
tombe
un
bien,
peu longue?
J'ai un peu de temps.
T'as un peu de temps. J'ai toujours été un garçon qui avait le rêve américain. J'ai toujours adoré la culture américaine.
Qu'est-ce qui te faisait rêver?
Depuis tout petit. Et j'ai un frère qui est handicapé, qui est autiste. Mm-hmm. Et la seule thérapie que mes parents ont trouvée qui fonctionnait réellement était à Philadelphie.
D'accord.
Donc quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient à Philadelphie tous les ans, et donc j'ai grandi avec cette idée que tout était possible aux États-Unis.
Ouais. Donc et depuis... que la médecine était
voilà,
un peu
voilà.
Ouf, ouais. D'accord.
Donc depuis tout petit, j'ai voulu venir en Amérique, et à 18 ans, voilà, j'ai été accepté dans un collège en Californie, et donc je suis parti, ce qui était extraordinaire, mais aussi très dur à 18 ans de partir tout seul sans sa famille. Donc ouais. Il m'a fallu un an ou deux d'adaptation, mais voilà, je suis très content de l'avoir fait.
Et alors, t'es parti à l'époque, donc si t'étais pas encore étudiant, ça veut dire, très logistiquement, très pratico-pratique, t'es parti de ta poche en fait, enfin du coup, si tu pars dans un collège américain. Le coût de l'éducation n'est pas le même qu'en France,
c'est
je veux dire.
C'est une très bonne question. Pour les écoles dentaires, j'ai dû prendre des crédits sur 3 ou 4 différentes banques, qui est très difficile à organiser. Pour le collège, j'ai eu déjà beaucoup plus de chance, qui sait qu'il n'est pas la chance de beaucoup d'étudiants. J'ai ma grand-mère qui a payé à peu près la moitié de mes frais.
Ah, super, d'accord.
Donc l'autre moitié, j'avais des petits boulots, je travaillais beaucoup, sur quoi on peut en parler. Mais si je n'avais pas ma grand-mère que je salue... J'aurais jamais pu venir aux États-Unis.
D'accord, wow, voilà. Ok. Voilà. Et donc, tu savais déjà que tu voulais devenir dentiste?
Est-ce que je savais que je voulais devenir dentiste?
Quand t'es parti, je veux dire.
Quand je suis parti, j'ai eu la chance à Paris de travailler avec différents professionnels du domaine de santé pour voir exactement ce qui me...
Tu as fait des stages pendant ton
voilà,
lycée ou...
Voilà, d'accord. Pendant le lycée ou quand je revenais pendant les vacances d'été.
Ouais.
Et j'ai travaillé avec deux dentistes qui sont... Deux avenue Hoche à Paris qui sont spécialistes en implants, et ça m'a vraiment plu, et c'est là que j'ai trouvé un peu ma vocation.
D'accord.
Mais pendant longtemps, je savais pas si je voulais travailler dans l'autisme aussi, donc j'ai fait beaucoup de volontariat, j'aimerais beaucoup incorporer ça à mon cabinet dans le futur.
D'accord. Donc, chouette.
C'est un peu entre les deux.
OK, voilà. D'accord. Et quel type d'accompagnement dans l'autisme te branchait?
C'est une bonne question. Quel type d'accompagnement? Moi, j'ai fait beaucoup de ici ce qui s'appelle PRT, qui est le Pivotal Response Treatment, qui est une façon pour motiver les enfants qui ont l'autisme à participer dans la vie sociale.
Mm-hmm.
C'est quelque chose qui est un peu négligé dans beaucoup d'accompagnements. Et maintenant, je pense qu'il y a des gens qui sont plus éduqués et qui sont plus à même de faire ce travail que moi. Moi, j'aimerais juste pouvoir faire des soins dentaires et les aider.
Ouais,
je pense que il y a beaucoup de cas aussi qui sont un peu difficiles. Mon frère, je sais qu'il était très difficile de maintenir dans une chaise et parce qu'ils n'ont pas le matériel et le training. Beaucoup de dentistes ne sont pas aptes à recevoir ce genre de patients.
Ouais.
Donc voilà, on se rend compte qu'il y a vraiment une demande.
Et alors, j'en profite pour rebondir, parce que sur la prise en charge et même l'accompagnement, comme tu dis, en fait, de l'autisme entre la France et les États-Unis. Alors, tu as parlé de la médecine avec Philadelphie, mais il n'y a pas que ça. En fait, j'ai l'impression qu'ici, on est quand même plus équipés humainement, en fait, même à accepter la différence, à accueillir cette différence et à l'accompagner, non?
Je suis d'accord à 100%. Ça a été très, très difficile pour mes parents en France. Je pense qu'il a été... Beaucoup d'écoles ne voulaient pas le prendre. Pareil avec des centres. Il y avait juste l'option, c'était envoyez-le en Belgique, ils lui donneront des médicaments. Et mes parents ont toujours refusé de faire ça. Alors que c'est vrai qu'ici, quand je parle avec les enfants de mes amis, c'est vrai qu'ils vont à l'école. Ils ont toujours un ou deux enfants handicapés dans leur classe. Ils sont vachement.
Ouais, c'est intégré,
c'est pas
en fait.
Tout tabou. Voilà, c'est très très intégré.
Ouais. Donc, ouais, c'est chouette. Ouais. Donc du coup, t'as 18 ans, tu habitais où en France à ce moment-là?
J'ai grandi à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, au sud de Paris.
Ok.
Et donc je suis parti à 18 ans pour UC Santa Barbara.
Ok. Donc, voilà. Dont tu arbores fièrement les couleurs
le
ce matin.
T-shirt, voilà.
Il se fait même arrêter dans le café par des alumni.
Exactement.
D'accord. Donc tu arrives là-bas, tu dis c'est assez difficile. Et puis, on est en quelle année à ce moment-là?
On est en 2009.
Donc il y a quand même les débuts de Facebook.
Voilà, exactement. Heureusement qu'il y avait Facebook, c'est grâce à ça que j'ai pu maintenir. Mais à 2009, je suis parti, et j'arrive dans le collège. Et au début, c'était dur parce que j'avais pas du tout. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est que j'avais pas du tout d'amis français. Donc j'étais obligé d'être complètement intégré qu'avec des Américains. Mais c'est vrai qu'au début, quand je demandais mon chemin et qu'on me répondait que je comprenais pas, je n'osais pas trop leur demander de répéter. Et donc j'ai fait le tour
donc
du campus plusieurs
perdu.
Fois. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ça s'est arrangé vraiment, même quand je galérais, que j'arrive, les profs me voyaient après les heures. Ils me reçoivent vraiment.
Sympa.
Vraiment, je ne sais pas si j'ai reçu.
Une grande empathie dans l'accueil.
Voilà, beaucoup d'empathie. Je ne sais pas si on aurait eu ça en France pour les étrangers. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de chance.
Ça dépend forcément des
endroits. Voilà.
Donc du coup, tu dis t'as pas d'amis français par choix ou juste parce que tu les rencontres?
Non, maintenant
ou...
j'ai des amis français.
Mais mais à ce moment-là,
quand je viens d'arriver, non, il n'y en avait pas. Je pense que dans toute la classe, sur les 4000 étudiants, il y avait deux autres étudiants français. Donc on s'est connus après au fur et à mesure de l'année, on se parlait. On se croise pas non plus tous les jours.
Ouais,
voilà,
d'accord. D'accord. Donc du coup, tu fais quoi? Tu fais 4 ans à Santa Barbara?
J'ai fait 4 ans à Santa Barbara sur le biologique. J'ai fait un bachelor de sciences en biologie.
Ok.
Et comme je dis, je travaille dans l'autisme en même temps. J'ai aussi fait de la recherche en parasito.
Ok.
En labo, un petit peu rat de laboratoire sur les microscopes à regarder des vers, mais j'adorais ça.
Ouais.
Donc je suis resté après pendant un an et demi à travailler dans le laboratoire.
Mm-hmm.
Et voilà. Et après, je suis rentré en école dentaire en 2000. En quelle année je suis rentré? En 2015.
Ok. À Santa Barbara aussi?
Non, je suis parti en Arizona.
D'accord.
Donc, c'était à côté de Phoenix, une école qui s'appelle Etistil. Et justement, la raison pour laquelle c'était partie de mes premiers choix, que c'est une des deux seules écoles du pays qui a un programme spécial pour les patients handicapés.
Ah, ok.
Donc, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a permis de vraiment participer à beaucoup d'événements. J'étais vice-président du comité Special Care.
Mm-hmm.
Et donc j'ai fait ça jusqu'en 2019.
Mm-hmm.
Travaillé un peu sur place. J'ai rencontré ma femme qui était aussi à Phoenix. Et c'était très sympa. Mais on en a eu un peu marre de 50 degrés l'été. Donc on est parti.
Il fait pas non plus. On peut pas dire qu'il fasse frais ici l'été non plus.
C'est vrai.
Enfin, remarque, tu peux aller en montagne. Tu peux prendre la voiture à 30 minutes, il fait bon.
C'est vrai. Mais je te promets, si tu te plains, je t'envoie une semaine à Phoenix.
Ah oui, non, je sais. Ma belle-sœur habite là-bas.
Tu vas revenir ici, tu vas être très content de l'été de Denver.
Il me semble que ta maman aussi en fait est tombée malade quand t'es partie aux États-Unis.
Oui, c'est vrai. Quand je suis venu ma première année, ça a été difficile pour plusieurs raisons. La première, ça a été la langue, la culture. Je pense que
tu parlais anglais un peu en partie.
Je parlais quand même très bien en anglais.
D'accord.
Mais très bien en anglais pour quelqu'un qui va à l'école publique en France, pas pour
Élève scolaire.
Voilà, un bon élève scolaire. Voilà, j'avais pas des parents qui étaient bilingues. Ouais. Pas,
Donc ici, ça parle vite.
Voilà, exactement. Donc, je suis venu et après, j'ai appris mon deuxième trimestre que ma mère avait un cancer du sein.
D'accord.
Et ma mère, ça a été... c'est la personne qui m'a permis de venir aux États-Unis déjà au début, qui m'a toujours poussé parce que mon père était contre.
Ouais,
elle a eu le cancer, ça a été la question de savoir est-ce que je reviens pour être à son accompagnement. Elle m'a toujours poussé à me dire non, c'est ta vie, c'est ton rêve, je veux pas que tu reviennes et Dieu merci, tout va très bien maintenant. Mais voilà,
c'est vrai, d'accord.
Voilà,
okay.
Voilà, tout va très bien.
Donc du coup, t'as considéré rentrer et finalement...
Voilà, j'étais à deux doigts de rentrer. J'ai eu un trimestre où je crois que toutes mes notes étaient absolument catastrophiques.
Ouais.
J'ai même pas réussi à faire un seul examen parce que j'ai... Et sur là aussi, il y a beaucoup d'accompagnement. Ils m'ont dit, écoutez, on comprend, on vous laisse une chance, vous ne pourrez pas refaire ça une deuxième fois. Et donc, je suis rentré un peu plus souvent. Tous les trois mois, j'essaie de faire au moins une semaine.
Alors, fais pas ça, excuse-moi, parce que
excuse-moi,
le micro,
excuse-moi,
sinon je
excuse-moi,
pas.
Excuse-moi. Je suis rentré...
Ben danse avec son micro.
Voilà, exactement. Voilà. Pardon. On parle beaucoup avec les mains dès qu'on parle français. C'est
vrai.
Donc, je suis rentré assez souvent et voilà.
D'accord. Voilà. Et donc ta maman va bien.
Et ma mère va très bien. Merci bon, beaucoup de demander.
C'est fantastique. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Très bien. Et alors, ta maman, pourquoi est-ce que ta maman t'encourageait et à l'inverse, ton papa était hop, 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 reste ici.
Je pense qu'il y a des différences d'éducation, ouais. Culture. Mon père, il est très bienveillant. Il avait juste peur que je sois un peu perdu, que je sache pas trop quoi faire.
Il avait peur pour toi, quoi.
Ou il avait un peu peur
pour lui,
moi.
Mais
ouais,
pour
il
toi.
Est très papa poule, alors que ma mère, c'est un peu l'opposé. C'est vas-y, si c'est ton rêve.
Pars à l'aventure.
Voilà, pars à l'aventure. voilà.
D'accord.
Donc ils sont un peu diamétralement opposés, ce qui me.
Ça a été dur de les convaincre, du coup, enfin d'avoir un consensus parental.
Ça a été dur de les convaincre. Quand j'ai été accepté, en fait, ce que mon père a fait, il a imprimé une liste des collèges américains.
Ouais.
Il est le top 100, qui est un classement qui vient tous les ans.
Ouais.
Et il a, je me rappellerai toute ma vie, il a pris une règle et un crayon et il a coupé une ligne en dessous de la 30e et il m'a dit voilà, si t'es pris dans une des 30 premières,
je te laisse partir,
mais au-dessus de ça, ça vaut pas le coup. Donc, et Santa Barbara à l'époque était 28, je crois,
ah
ou
oui.
27. Donc j'ai eu beaucoup de chance. t'es pas passé très loin.
Et t'avais voilà. candidaté dans beaucoup d'universités?
J'avais fait beaucoup d'universités, surtout en Californie.
Pourquoi?
Ouais. Parce que la seule famille que j'avais était à Los Angeles.
Ah, t'avais
voulais,
de la famille
voilà,
là-bas.
J'ai la sœur de ma mère. Ils sont partis il y a très longtemps, je crois, en 2000 ou 2001. Donc, je voulais pas être complètement
bien
tout
sûr,
seul. Donc, au
sûr.
Moins, j'avais un peu de famille
bien
à côté.
Ok.
Voilà.
Donc, en fait, t'es parti, mais tu savais, en fait, du coup, que tu partais pour devenir dentiste. Enfin, je veux dire, tu savais que tu partais. Enfin, je veux dire, si tu devenais dentiste aux États-Unis, il y avait des chances que tu rentres pas, en fait.
Moi, je suis toujours parti dans l'idée de pas revenir.
Ah ouais.
Ouais. Ouais. Je pense que dès le moment
c'est où rare j'étais... de savoir ça à la
ouais. Je pense que dès le moment où j'étais accepté, pour moi, c'était très clair que ouais. voilà, ma vie, ça allait se faire aux États-Unis. Et j'ai tout fait pour ça. Voilà. Donc je le savais. Okay. C'est pour ça aussi que c'était un peu dur de partir parce que c'était. Je savais.
Ouais,
que c'était,
tu savais que c'était un gros
voilà.
départ.
Voilà, voilà.
D'accord. Ok. Alors donc du coup, tu t'installes en Arizona. C'est là que tu rencontres ta femme qui travaille aussi dans le médical.
Exactement.
Okay.
Elle est pharmacienne.
Tu peux nous raconter comment vous êtes rencontrés?
C'est très 21e siècle comment on s'est rencontrés.
Sur une app.
Sur une app, voilà, qui s'appelle Coffee Meets Bagel.
Ah oui, d'accord.
Voilà, j'ai un copain, j'étais au bout de 3-4 mois d'études dentaires. J'ai demandé à mon meilleur copain, écoute, j'aimerais beaucoup rencontrer une fille, je passe ma journée à la bibliothèque. Il faut que j'ai quand même un autre hobby. Et donc, j'ai pris cette application et la première journée, j'ai matché avec ma femme. Et,
ah oui, d'accord, le premier quoi.
Premier jour. Et ce week-end-là, on s'est rencontrés au restaurant et uh-huh. voilà.
D'accord. Voilà.
Okay. Elle m'a fait travailler très dur, mais c'est.
Elle t'a fait travailler très
Elle
dur.
M'a fait travailler très dur pour la conquête a été
pour
très
la,
difficile,
la
mais voilà, ça valait le coup. Donc,
Ok. Est-ce que tu veux nous la décrire ta femme?
Ce que je veux vous décrire ma belle femme, elle parle pas français, donc c'est, je peux pas lui faire des compliments si elle comprend pas.
Moi, je lui dirai, j'ai son numéro.
Non, je plaisante. Ma femme, je l'ai rencontrée, comme j'ai dit, quand j'étais en première année d'école. C'est quelqu'un de très 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 vivante. Elle a vraiment très contente de rencontrer quelqu'un d'un peu différent, dans le sens où j'étais européen.
T'es exotique. Ça,
voilà exactement. Donc ça m'a permis un peu de lui montrer la France. On a voyagé un peu et elle aussi. Le côté un peu Midwest, Colorado, très chaleureux des États-Unis, où les ouais. gens sont vraiment sympas ouais. et accueillants, qui m'avait un peu
zen.
Manqué en Californie.
T'es
très
cool.
zen ici. C'est ouais. vrai que moi, même au début, on marche dans la rue, si on croise le regard de quelqu'un, il vous demande comment ça va. Quoi.
Ouais,
c'est vraiment.
Ça, c'est ça,
voilà, c'est pas
limite,
du tout
si on
parisien.
T'invite pas à prendre
voilà,
le café.
Ouais, exactement. exactement. Moi qui ai grandi à Paris, au début, j'étais waouh, ça
ouais,
va.
C'est culture choc.
Donc voilà, c'est pour ça que je suis tombé amoureux de ma femme. Et,
ouais.
et on s'est beaucoup aidé quand j'étais en école dentaire et qu'elle commençait à travailler. Elle m'a beaucoup aidé et voilà, et maintenant on est tous les deux bien. C'était un peu difficile financièrement dans le côté où avec l'argent que j'avais des banques pour payer les études, mm-hmm. il me restait à peu près que 1200-1400 $ par mois pour payer les frais, ce qui pour beaucoup de gens en France est beaucoup d'argent. Donc je ne dis pas ça de manière...
Mais la vie ici est très chère.
Ouais. Donc c'était très difficile, donc elle m'a beaucoup aidé financièrement. Aussi, elle est très très forte, elle est dans le domaine... universitaire. Ouais,
ouais.
Voilà, moi je suis plutôt quelqu'un qui va se coucher à 6h du mat et travailler le jour d'avant. Elle m'a donné un peu de discipline pour m'aider à faire mes examens.
Ouais.
Et donc voilà, je suis vraiment très heureux. J'ai une femme exceptionnelle. Elle est à la maison avec les deux petits qui ont tous les deux en dessous de 2 ans. Donc vraiment,
ouais.
je tire mon
ouais.
chapeau.
C'est un peu une marathonienne en fait.
Voilà, exactement. exactement.
Ouais. Et alors tes enfants, donc t'en es à deux petits. Non, un petit garçon, une petite fille.
Voilà.
Et je suis curieuse en fait de savoir comment. Avec quelle culture est-ce qu'ils grandissent, du coup? Puisque toi, ça fait 13-14 ans, du coup, que t'es installé aux États-Unis.
C'est ça, bientôt 14, ouais.
Je sais pas si tu te considères plus américain que français, un peu les deux, en fonction de où t'es, mais du coup, qu'est-ce que vous transmettez, en fait, à vos enfants, tu vois, les enfants de la troisième génération? Avec quel mix de culture, finalement, ils grandissent?
C'est une très bonne question. C'est un peu difficile d'y répondre, dans le sens où ma femme ne parle pas français.
Ouais.
Moi, j'essaye au maximum de parler français à mon fils. Quand on est tous les deux, ou même voilà, mais je veux pas non plus que ma femme se sente exclue.
Ouais.
Il a que 1 an et demi, mais l'autre fois, je lui ai dit fais-moi un bisou, il m'a fait un bisou, donc vraiment, ça a été un moment exceptionnel. Donc j'essaie de lui lire des livres en français, de lui mettre la télé. Il appelle mamie et papy de temps en temps le week-end, il lui parle en français. Donc, j'essaie au maximum, mais voilà, il y a un peu, il sera plus américain.
Ouais.
Voilà. Ouais.
Et toi là, tu te sens, tu pèses où l'aiguille?
C'est très difficile, je pense que... Ouais.
Ta vie adulte est américaine, en fait.
Voilà, je suis plus... Mais c'est très difficile parce que je pense que tu dois ressentir ça. Et je pense que tous les gens qui ont quitté leur pays un peu plus tard se ressentent que quand on rentre en France, on est plutôt américain. Et quand on est en France, quand on est américain, on se sent plutôt français.
Tu te sens encore décalé ici un peu
Je ne me sens pas décalé forcément, mais parce que, comme je disais, dans la mesure où les gens sont quand même faciles à parler, à s'entendre avec, mais ouais, il y a quand même des fois où je me sens un peu plus français, je pense, dans la façon de penser, et vice-versa, quand je regarde un peu ce qui se passe en France, je me sens très américain. Ouais. Donc on est un peu entre les deux, donc c'est pas facile pour moi de répondre à cette question. Ouais. Ça dépend.
Et c'est pas facile, en fait, parce qu'on se sent même un peu perdu, en fait. Enfin, tu vois, c'est genre, ok, j'appartiens où, en fait? Moi, c'est pareil, toute ma vie d'adulte, je l'ai faite aux États-Unis, sans rentrer dans des considérations philosophiques, mais... Qui suis-je?
Non, mais c'est ça, c'est vrai. C'est
et du coup,
ça.
En sachant qui t'es, qu'est-ce que je transmets à mon enfant, à mes enfants, dans ma famille?
Non, mais d'ailleurs, sur ça, moi qui ai eu la chance de manger avec ton mari et ton fils en français est absolument exceptionnel à 4 ans.
Il roule les airs quand même.
Un petit peu, d'accord. Mais vraiment, si tu pouvais m'apprendre un peu, parce que c'est vraiment génial ce que tu as réussi à faire. Donc, je tire mon chapeau, vraiment, il parle.
J'ai la chance.
Ouais, ouais.
Tu dis que tu fais attention, du coup, à ce que ta femme, puisqu'elle ne parle pas français, se sente inclue, en fait, dans la culture que tu essaies de partager avec tes enfants. Mais je veux dire, on peut partager la culture par plein d'autres choses. Elle vient, elle, en France. Est-ce que tu sais un peu quelle relation elle développe au fur et à mesure avec ton pays d'origine?
C'est une bonne question. Ça dépend de certains points. Je pense qu'elle est un peu comme moi. Je pense qu'elle aime un peu les mêmes côtés de la France. Elle adore le côté culturel qui manque un petit peu des fois aux États-Unis, de pouvoir marcher dans n'importe quelle rue. Il y a tellement d'histoires.
Les rues piétonnes.
Voilà, piétonnes. Ouais. Et puis, il y a ce côté artisan où tu rentres dans n'importe quelle boutique et les gens sont vraiment amoureux de ce qu'ils font.
Ouais.
Vraiment. Donc ça, c'est quelque chose dont elle est complètement amoureuse comme moi. Mais après, je pense que...
Elle connaissait la France avant de te connaître?
Pas vraiment.
D'accord.
Pas vraiment. Un peu comme tous les Américains, voilà, Paris, la Tour Eiffel, voilà, les trucs.
Your life must be so romantic.
Exactement. Mais non, elle est très contente qu'il apprenne à parler français. Mm-hmm. Et le pauvre, maintenant, on a une babysitter qui vient de Colombie, donc il apprend aussi l'espagnol. Je sais pas, il doit être un peu perdu à 1 an et demi, mais non, elle est très contente et elle essaie de regarder un peu avec moi. On regarde pas mal de films français, de séries.
Ah, cool. Ouais, donc ça, en fait, tu arrives quand même à partager.
J'arrive un petit peu.
Ta culture par plein de trucs. Elle a envie d'apprendre le français ou?
Les Américains sont pas très forts en langue. Elle a fait des cours. Je pense qu'elle comprend beaucoup. Si je parle doucement, elle comprend beaucoup, mais. Vraiment, pour quelqu'un qui a fait 5 ans d'espagnol, quand je l'entends essayer de parler, je vois que vraiment c'est dur. Vraiment, elle a d'autres qualités, mais la langue, c'est pas son truc. Donc...
J'allais te poser des questions sur les dentistes. Est-ce qu'il y a en fait des différences importantes en fait avec la France? Moi, j'ai l'impression déjà que tous les Américains ont des dents maxi bright, hyper blanches, et que c'est un peu les dents presque un signe extérieur de richesse aux États-Unis.
C'est très ça. Voilà, tu l'as très bien décrit. Moi, qui ai la chance d'avoir travaillé avec un dentiste en France, qui s'appelle Dr René Girard, d'ailleurs, qui est exceptionnel. Quand je voyais ses patients venir et qui se cassaient une dent devant ou des cas un peu esthétiques, la philosophie est complètement différente. Ici, c'est je veux être blanc, 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 le plus blanc possible. En France, je veux que ce soit naturel, que ça ne se voit pas. Mm-hmm. C'est très, très différent.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, ici, il y a vraiment une culture où les gens, tous les week-ends, se prennent des crestes white stripes, ils viennent de temps en temps faire du blanchiment. C'est vraiment très, très important pour les Américains.
Je ne vais plus montrer mes dents, je ne vais plus sourire devant Ben.
Non, il n'y a aucun problème. T'as de très belles dents, t'as de très belles dents. Mais ouais, c'est une culture un peu différente. Et après...
Il y a une raison particulière ou c'est... On est juste différents, c'est comme
question.
Ça.
Je pense que c'est juste une différence culturelle. Je pense qu'en France... Et puis aussi, il y a ce qu'on fait aussi. Les Français fument beaucoup, boivent beaucoup de café, font beaucoup de choses qui, voilà, déjà...
Qui jaunissent les dents.
Voilà, jaunissent les dents. Alors que les Américains font très attention à ça.
Déjà. Aux États-Unis, moi, je sais qu'on m'a... parfois, en fait, tu vois, dit... va chez un dentiste qu'on t'a recommandé parce que... On a des fois du mal à savoir, tu vois, c'est un business aussi en fait finalement, le dentiste, c'est de la médecine aussi bien entendu, et savoir est-ce qu'on me upsell pas un peu trop de services, etc. En fait, et du coup je suis un peu intéressée d'en parler avec quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, qui connaît les deux systèmes qu'on connaît. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent les questions aux États-Unis.
Et c'est 100% vrai, et c'est même très triste qui est en train de devenir le domaine dentaire aux États-Unis. Il y a beaucoup de grandes chaînes qui sont des big corporations qui ont 50, 70. La plus grande, c'est Heartland, qui a 700 cabinets, 800 cabinets. Qui mettent des dentistes qui sortent d'école. Moi, j'ai travaillé pour une compagnie comme ça quand j'ai démarré ma carrière. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses sur le business management, que je connaissais rien, comment voir ses chiffres, comment voir son staff. Mais voilà, t'as un manager qui dit à un garçon de 28 ans « Ah bah non, tu fais pas un composite, là ça devrait être une couronne, attends, tu leur charges 10 fois le prix. » C'est des choses qui se passent réellement. C'est des choses qui se passent réellement aux États-Unis. Donc c'est très triste. Mais après, c'est aussi de savoir avec qui on travaille. Si vous travaillez avec des gens souvent qui sont des cabinets, c'est difficile aussi de savoir parce qu'ils le masquent bien, qui appartiennent à des particuliers. Les règles sont en généralement pas les mêmes.
Ah ouais.
Parce que moi, si tu m'attaques en justice ou si j'ai un problème, c'est toi contre moi. D'accord. Si tu attaques Heartland en justice, ils n'en ont rien à foutre. D'accord. Ils ont une armée d'avocats, ils s'en foutent complètement. Donc, c'est pas les mêmes protocoles. Tu fais une couronne pour moi, d'accord. Tu vas la payer peut-être plus cher que chez eux. Mais est-ce que tu préfères que ce soit fait par un professionnel qui est en Utah ou Colorado ou quelqu'un en Chine qui l'a fait avec du matériel bas de gamme. Donc il y a beaucoup de différences. Et le problème, c'est qu'aux États-Unis, on est un pays qui est très fort en marketing. En France, c'est complètement interdit de faire une pub pour un cabinet dentaire. À la radio, ici, c'est le cas.
Même t'as des promos.
Exactement.
Genre, votre assurance couvre pas, venez, pour moins de $100, on vous fait tout.
Exactement. Donc, on est en compétition avec des groupes qui font ce genre de travail mille fois mieux que nous, qui ont une armée, qui ont beaucoup d'équipes et qui prennent une grosse part du marché. Et si ça permet à des gens qui n'auraient pas accès aux soins de l'avoir, c'est très bien. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais le problème, c'est que, comme tu le dis, ça donne ce ressenti chez des gens comme toi que je vais chez le dentiste. Est-ce qu'il va vraiment regarder mes dents ou mon porte-monnaie ? Et c'est horrible que les gens se sentent comme ça. Mais malheureusement, c'est voilà. Ouais. Mais ce n'est pas le cas chez moi, bien évidemment.
Bien évidemment. Bien évidemment. C'est quoi, du coup, les conseils que tu peux donner à des gens qui, enfin, tu vois, pour trouver un praticien en quel tu as confiance ou si tu as un doute, quelles questions est-ce qu'il y a des questions que tu peux poser ou des mesures que tu peux prendre? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a, t'as des petits tips en fait que des Français à l'étranger pourraient utiliser?
Je pense que déjà parler avec le praticien quand on arrive. Alors, quelle est votre philosophie? Ça fait combien de temps que vous avez fait ça? À qui appartient le cabinet? Très important.
Ah ouais, faut pas hésiter à poser la question.
Non, à mon avis, faut pas hésiter à poser le cabinet. Moi, si on me demande, c'est moi qui l'ai. Et pendant 40 ans, c'était le cabinet de mon prédécesseur qui est connu à travers tout le pays. Donc voilà, on a quand même une réputation à tenir. Ça, c'est une bonne question. Après, dans la majorité du temps, je pense que Google est quand même très fort pour les reviews.
Ah ouais.
Donc, si tu as un cabinet qui a quand même beaucoup, beaucoup de bonnes reviews et que tu regardes, qui a 4.5 et au-dessus, même 4.8, 4.9,
ouais, mais comme
général,
tu dis, s'ils ont le budget marketing, ils peuvent aussi acheter des
Google,
reviews.
C'est vrai, mais Google est très fort là-dessus.
Ah ouais,
Google arrive à savoir,
plus que
Yelp
ou...
voilà, ils arrivent à savoir si c'est un copain à toi ou la famille, ou si vraiment le téléphone a été alerté au cabinet. Moi, je suis pas. C'est toi l'ingénieur, c'est pas moi. Mais ils ont des algorithmes qui sont quand même très forts. Donc,
d'accord.
Google Review est quand même un bon.
Ok, d'accord.
Voilà.
Donc demander, poser des questions.
Poser des questions. Et voilà. Et puis comparer, si on est pas sûr, on peut aller voir 2-3 dentistes. Après, c'est pas celui forcément qui vous dit que vous avez besoin du moins qui est le meilleur. Mais ouais. Moi, j'ai des gens qui viennent, qui ont besoin de 2-3 dents de travail et qui arrivent avec j'ai presque envie de dire un devis où ils ont besoin de travail sur 14 ans, alors que c'est absolument pas vrai. Parce que c'est des grosses compagnies où les dentistes vont seulement être là pour un an. Donc quand vous revenez, si vous avez un problème, ah ben non, monsieur le dentiste n'est pas là. Voilà, donc ils n'en ont rien à foutre. Voilà, alors que moi, c'est ma réputation.
Ils ne font pas la prévention.
Exactement. Si toi, tu viens et que tu as besoin de rien, je m'en fous. Moi, ce qui est important, c'est pas l'argent que je gagne sur toi, c'est comment tu parles de moi, à ta famille, à tes amis. C'est ça qui est important pour moi. Et c'est là que je vais gagner de l'argent.
Comment est-ce que tu vis du coup en tant que dentiste, du coup j'allais dire indépendant, je sais pas si tu peux dire ça, par rapport en fait justement à des collègues qui ont des pratiques différentes. Enfin, je veux dire, vous avez des conférences scientifiques, vous vous formez, vous avez une obligation d'éducation continue. Comment en fait est-ce que du coup ces deux corps, c'est le même corps professionnel, mais ces deux philosophies finalement du métier cohabitent?
C'est une très très bonne question. Et moi, c'est pour ça que je suis très heureux d'être là, parce que je suis un très grand fan des podcasts. Ça m'a aidé énormément au début de ma carrière. J'ai écouté beaucoup de podcasts sur le domaine de business et aussi de dentaire pour apprendre un petit peu, parce que je ne connaissais rien. J'ai toujours l'impression d'être complètement ignorant, mais ça m'a déjà fait passer de 0 à un peu moins. Voilà. Et après, je pense qu'il faut aussi savoir être modeste et reconnaître qu'on a ses limites. Donc moi, j'ai des gens que je paye tous les mois, qui sont consultants, en qui j'ai confiance, avec qui j'ai travaillé depuis longtemps, qui revoient mes chiffres, qui s'assurent que les choses sont bien faites, qui parlent à mon front desk comment présenter les cas. Voilà, je pense que les dentistes souvent qui ont du mal, c'est ceux qui ont l'impression qu'ils peuvent tout faire tout seuls. C'est admirable, mais voilà, qu'est-ce qui est plus intéressant?
C'est une difficulté dans l'entrepreneuriat tout court en fait.
Voilà, exactement. Exactement. Donc,
on a envie de limiter les coûts, d'essayer de faire tout soi-même. On se burn out un peu.
Exactement.
Et on peut pas être bon en tout.
Voilà, c'est ce que j'ai fait en Arizona et je pense que j'étais complètement burn out. Et donc du coup maintenant, j'ai plus de temps avec ma famille. Je paye des gens qui honnêtement font le travail plus rapidement que moi et mieux que moi. Donc voilà.
D'accord. Voilà. Donc le conseil, c'est s'entourer.
Le conseil, c'est de s'entourer, exactement. Faut pas rester seul quand on est entrepreneur, que ce soit comme tu dis dans n'importe quel domaine. On peut se sentir très seul. C'est quand même beaucoup de risques quand on prend des. Moi, j'ai pris une loan pour le cabinet qui est presque à 1,5 million. Donc ça fait un peu peur quand on voit ce qu'il faut payer tous les mois. Ça rajoute une pression, surtout quand on a des enfants.
Puis ce que j'allais dire, une pression familiale parce que j'imagine que tu ne peux pas forcément acheter tout de suite une maison.
Qui est très importante. Donc il faut savoir s'entourer, il faut savoir demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à ça. Moi, il y a plein de choses que je ne suis pas bon du tout. Donc je m'entoure.
Et justement, tu vois, c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis, savoir dire qu'on n'est pas bon en tout, puisque tu es entrepreneur aussi, donc en parallèle de ton métier de dentiste. Il y a une culture, en fait, tu vois, genre de la réussite, j'ai l'impression, en France, et ici, alors c'est bizarre la manière dont je vais le dire, une culture de l'échec. C'est-à-dire qu'ici, on donne de la valeur aussi à l'échec, en fait, dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'est quelque chose que t'as remarqué.
1000% d'accord avec toi. Et c'est aussi pourquoi je me reconnais plus dans la culture de travail américaine qu'en France. Maintenant, ceci dit, bien sûr qu'on a des gens qui sont brillantissimes en France. On a un pays qui est beaucoup plus petit en taille. Mais ici, je trouve que les gens qui ont réussi, on les regarde, on leur pose des questions, on est admiratif. En France, on est un peu envieux, on est un peu jaloux parfois. Voilà, il y a une belle voiture, on va la rayer.
On n'ose pas dire qu'on a réussi.
On n'ose pas dire qu'on a réussi. C'est un peu tabou. C'est très très différent. Alors qu'ici, je trouve que les gens, et comme tu dis, il y a une culture où l'échec et les gens, moi, les gens avec qui je parle, qui ont réussi mille fois mieux que moi, prennent beaucoup de plaisir à me raconter les fois où ils ont vraiment merdé. Voilà, ils sont plantés complètement. Donc, alors qu'en France, je sais pas si c'est à l'éducation ou vraiment l'échec est excuse-moi le langage, mais t'es un peu une merde. Alors qu'ici, c'est accepté. Les gens, si on écoute n'importe quel... Si vous voulez écouter les histoires de Warren Buffett, Ray Dalio, ils vont tous vous parler de comment ils ont merdé au début. Et je trouve ça extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là américain.
Et en fait, c'est le cheminement comme ça qui t'amène vers ton objectif. Et c'est normal, en fait. Enfin, ça arrive à tout le monde. Et prétendre qu'on ne s'est jamais planté, c'est juste un gros mensonge.
Exactement. Ou on n'a rien essayé. Du coup, on ne peut pas se planter si on ne fait rien.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, t'es rien. Il y a un podcast qui est génial en français. Je ne sais pas si tu connais, c'est La Leçon de Pauline Grisoni. D'accord. Dans lequel elle reçoit des personnalités. Il y a beaucoup du domaine du divertissement, mais pas que. Pour raconter, en fait, de manière assez légère, leur pire fail. Tu vois,
c'est génial.
Donc ça commence aussi en France un petit peu.
J'écouterai. C'est génial.
Et j'avais, quand j'étais dans l'entrepreneuriat, dans une autre vie, j'avais participé, il y a une espèce de tournée en Amérique au pluriel, donc Amérique du Sud, Amérique du Nord, qui s'appelle les Fuck Up Night, où en fait c'est des entrepreneurs qui montent à la manière presque d'un truc de stand-up et qui vont te raconter en fait ce dans quoi ils ont merdé, etc. Et ils passent dans plein de villes et donc c'est des locaux en fait qui viennent te raconter.
Ah, c'est
tu
génial
vois.
Et les fuck-up, un... j'adore, ouais. Super ouais. Bon, j'adore.
C'est ça, c'est bon pour le SEO. Hein.
Oui, exactement. Exactement. Bah, très bien, je vais donner mon application. Je pense que j'ai pas mal de matos pour.
Alors c'est quoi, raconte-nous sur quoi t'as merdé.
Mes premiers boulots déjà, qui ont été un peu difficiles, où j'ai eu beaucoup de chance d'avoir de travailler avec des dentistes qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi, qui m'ont appris beaucoup de choses. Mais comme j'ai dit, quand j'ai travaillé dans ce premier cabinet, c'était très difficile.
Industriel,
parce que,
un peu.
Voilà, très industriel, où on voulait me faire du travail qui n'était pas acceptable pour le patient. Donc je me suis bataillé beaucoup avec le patron, qui n'était pas un dentiste, qui ne connaissait rien de médical et qui voyait que des chiffres. Ouais. Voilà, mais moi, j'aime beaucoup l'argent, je veux en gagner beaucoup, il y a aucun problème là-dessus. Mais bon, il faut quand même, quand tu as une grand-mère de 70 ans qui est dans ta chaise et qui a besoin d'une couronne, et quand on te dit qu'il faut lui dire qu'elle en a besoin de 4, pour moi, ça passe pas. Ouais. C'est pas acceptable. Donc j'ai travaillé dans des cabinets comme ça. Donc mon premier cabinet, j'étais dans le pire quartier de Phoenix au début quand j'ai travaillé. C'est un quartier très populaire où il y avait pas mal, voilà, on avait souvent la police dehors. D'accord. Devant, voilà. Ouais. Mais moi j'adorais mes patients parce que ça m'a permis de parler espagnol beaucoup mieux, déjà numéro un.
Ouais.
Et des gens qui sont déjà très heureux de voir un dentiste et quelqu'un qui leur prend l'attention. Mais bon, quand on se pique avec une aiguille et qu'on nous explique que c'est pas le problème du patron, que c'est à vous d'aller à l'hôpital et de vous en occuper, et qu'on est un peu tout seul sans soins, sans assurance médicale, wow, c'est pas très sympa. Ouais. Alors qu'on est soi-disant le roi du cabinet deux jours avant. Donc voilà, c'est un pays aussi qui est très dur là-dessus. Il faut quand même dire ça aux Français. Je pense que j'ai beaucoup d'amis qui ont l'impression qu'on arrive aux États-Unis et que ça y est, quoi, les rues sont pavées d'or et que c'est fini.
Tapis rouge.
Voilà, il faut travailler beaucoup et c'est très dur. C'est un pays qui peut être dur. Donc quand on n'est pas dans les bonnes situations professionnelles, voilà, quoi, on vous laisse tomber. Donc, voilà. J'ai appris beaucoup et j'ai vu comment je ne voulais pas traiter mes employés, comment je ne voulais pas, mais. Mais voilà, donc j'ai beaucoup déconné au début et j'ai pris des emplois que j'aurais sans doute pas dû prendre. Et même au niveau de mes cas, j'ai beaucoup appris. Je pense que ceux qui, n'importe qui est dans le domaine médical ou même, j'ai beaucoup apprécié le podcast d'Océane, quand je l'écoute, j'ai l'impression d'être très paresseux. Son rythme de travail est assez impressionnant.
Elle est un peu hyperactive,
un
Océane.
Peu hyperactive aussi. Mais j'ai fait beaucoup de cas qui sont très avancés maintenant. Au début, quand je les faisais, j'ai eu des failures, j'ai eu des trucs qu'il a fallu que je refasse. Voilà, il faut aussi être un peu honnête avec soi. On ne sort pas d'école dentaire à faire des cas avec 10 implants et tout se passe très bien du premier jour. Alors, t'es un génie, voilà, ça prend du temps. Donc,
il faut être humble.
J'ai eu beaucoup d'échecs dans tout, que ce soit business ou
il s'est remis à danser.
Pardon, excuse-moi. Ou médical, mais voilà. Donc j'apprends et je suis très fier de mes échecs. Voilà.
Ouais. Voilà. Bah, c'est super. Et alors l'autre jour, on devait normalement enregistrer il y a une semaine. Et puis l'un comme l'autre, nos agendas, on a eu quelques conflits. J'aimerais bien que tu me parles aussi en fait du management à l'américaine. Je pense à ça parce que du coup, t'as eu une personne qui est partie un peu plus tôt que prévu de ton boulot. Je ne sais pas si c'est OK de le dire.
Oui, bien sûr.
Est-ce que t'as en fait des... Enfin, après, t'as pas été manager en France, tu vois.
Mais
est-ce que, je sais pas, t'as remarqué en fait dans la culture du travail, dans la culture du management, d'être entrepreneur. Enfin, je veux dire, tu revais beaucoup de casquettes finalement. Est-ce que, je sais pas, t'as des conseils, des observations que tu as relevées en fait entre la France et les États-Unis.
Ouais, comme tu dis, j'ai pas énormément d'expérience en France, mais j'ai quand même mes parents sont chefs d'entreprise en France, ils ont une pharmacie à Paris. Je trouve qu'il y a une différence culturelle qui est assez importante, c'est-à-dire que moi, mes employés, et ça va l'air un peu cliché, je veux absolument qu'ils soient heureux, qu'ils sentent bien dans leur peau quand ils arrivent au boulot. C'est très très important pour moi.
Voilà. Pourquoi?
Pourquoi ? Parce que c'est un peu la notion, je pense que c'est un peu Google qui a aussi amené ça, c'est de façon, juste au quotidien, c'est agréable d'avoir des gens qui sont heureux entourés de soi. Même pour moi, ça me fait plaisir d'arriver au boulot et de savoir ce qu'ils ont fait le week-end. On est un peu plus friendly que je pense qu'il y a 20 ans. Et de l'autre côté, même financièrement complètement, je pense que les gens qui sont plus heureux travaillent mieux. Ouais. Voilà, donc ouais. De deux côtés.
Ils sont
donc,
plus efficaces, exactement. Plus productifs.
Donc moi, je prends quand même beaucoup de temps à être un peu psychiatre. Je ne sais pas si je le fais bien. Mais
comment
donc,
tu t'y prends alors?
Comment je m'y prends? Bah, quand je vois que mes employés sont un peu plus calmes, je leur demande ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a une partie qui voudrait grandir? Est-ce que je peux les aider dans... leur faire un training, qu'est-ce qu'on peut faire un peu être au devant des problèmes dans l'entreprise pour que les gens se sentent encadrés et mm-hmm. Je pense que les gens ont besoin de beaucoup de suivi maintenant. Je pense qu'on est dans une époque un peu différente. À l'époque, les gens allaient au boulot, ils rentraient le soir. Maintenant, ils ont besoin de se sentir appréciés. Donc s'ils ont un bon mois, je leur offre un petit cadeau, je leur envoie. Là, j'ai ma Janice qui a fait super, je l'ai envoyé faire un massage avec son mari, l'autre
envoie
un match de
cadeaux.
Baseball, voilà. Donc j'essaye de faire des petits trucs par-ci par-là pour que les gens se sentent
valued.
Voilà, se sentent valued, exactement.
Valorisés.
Voilà, exactement. Je pense que c'est très important, surtout ici. Parce qu'on n'est plus dans le domaine où c'est le patron qui rentre et machin. Moi, je reçois beaucoup de résumés. Tu as parlé de la fille qui est partie devant, qui était d'ailleurs très bien. Elle a juste eu une opportunité dans son job d'avant. Elle voulait travailler dans l'éducation. Elle m'a demandé. J'ai dit, je comprends tout à fait. Ce que je ne m'a pas plu, c'est qu'elle m'a dit qu'elle pouvait rester 2 semaines et qu'au bout d'une semaine, elle est partie. Mmh. Mais c'est un peu le monde dans lequel on est. Je reçois beaucoup de CV de gens qui voulaient appliquer pour la position qu'elle a laissée vacante. Et j'étais en train de t'en parler avant qu'on prenne un café. Des gens qui ont 25-30 ans et qui ont déjà 10 expériences professionnelles. Mmh. Donc on voit sur le résumé...
Qui papillonne un peu plus.
Voilà, de mai à juillet. Enfin, je veux dire, moi, si je travaille quelque part 2 mois, je ne le mets même pas sur mon résumé. Ouais. Je veux dire, c'est carrément... Donc on est un peu dans
ce
monde-là.
On est des vieux, nous.
Oh, exactement. Où le monde change beaucoup. Donc, on est leur patron, mais ils sont un peu nos patrons aussi. Voilà. Mm. Donc, sinon, ils s'en vont.
En fait, le rapport de force qu'il y avait peut-être quand dans la génération de nos parents, en fait, n'est plus du tout le même. Enfin,
exactement.
Je ne sais pas s'il est inversé, mais en tout cas, il y a un... C'est peut-être plus égal, égalitaire qu'avant.
Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Et puis, je vois, quand je fais des interviews, les gens ont beaucoup de questions.
Ouais, mais c'est bien en même temps.
Beaucoup de questions. Non, c'est très bien.
Oui, t'interviews aussi en fait. Ils vérifient que c'est un bon endroit où bosser, quoi.
Exactement. Ouais. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et c'est vrai que ceux de mes collègues qui réussissent bien, mais que je vois en plus de turnover, c'est parce qu'ils font moins de ça. C'est très important. Il faut vraiment passer le temps à connaître son staff, à savoir ce qu'ils aiment, à leur faire un peu des attentions personnalisées. Pas obligé de dépenser des fortunes, mais moi j'ai ma manager qui adore les Denver Nuggets. Je lui achète un gilet. Pour elle, voilà, ça m'a coûté $30. Et pour elle, c'est un truc de ouf. Donc les petites attentions, c'est très important.
D'accord. Voilà. Et comment est-ce que tu instilles aussi, un esprit d'équipe au sein de... Enfin, je ne sais pas combien de personnes travaillent à ton cabinet.
Là, on a 11 employés. On va avoir le 12e qui arrive.
Ouais.
Donc là, on est à 9, on en a 2 et après plus 1. Ouais, on va être à 11. Et comment est-ce qu'on fait ça? Il faut avoir une ligne bien décrite. Je pense que c'est ça qui est très important, que je n'avais pas compris. Ce n'est pas juste on rentre le matin et voilà. Il faut que ce soit très clair quels sont les objectifs de ta compagnie. Pourquoi? Quelle est ta philosophie? Pour que les gens ne soient pas perdus, quelque chose auquel s'identifier.
Quel est l'ADN en fait de ton cabinet?
Voilà, quel est l'ADN de notre métier? Moi, c'était beaucoup plus facile pour moi parce qu'elle a déjà été établie par mon prédécesseur, Dr. Downs, qui est très connu dans le domaine. Et voilà, donc j'ai juste un peu à marcher dans ses pas.
Et alors, c'est quoi la philosophie de ton cabinet?
La philosophie de Dr. Downs, c'est de vous aider, comment on peut dire en français, helping you keep your teeth a lifetime. Donc voilà, c'est d'essayer de faire du travail qui est très haut de gamme, où les gens peuvent, moi je des cas qui reviennent après 30 ans et tout est encore très bien. Et vraiment, quand on est dans le haut de gamme au niveau des produits, mais aussi nos prix sont un petit, on est un petit peu plus cher, on doit être 10% plus cher que la moyenne des États-Unis. Il faut pouvoir le justifier.
Bien sûr.
Que les patients se sentent vraiment spécial, il faut qu'il y ait une attention particulière, il faut qu'on soit préparé. Moi, quand les patients viennent, avant j'avais 3-4 patients en même temps quand j'étais à mon cabinet, moi j'en ai qu'un à la fois. Voilà, donc vraiment, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, pourquoi est-ce qu'à votre avis ils vont venir ici payer plus cher alors qu'ils pourraient juste aller 2 blocs plus bas et payer moins? Il faut justifier ça pour le patient. Donc ça, c'est très important. Et après, mon deuxième truc pour mon staff, c'est le no gossip. Moi, je n'ai... gossip, pardon. On a l'accent français.
Donc,
qui ressort.
Pas de commérage, quoi.
Pas de commérage. Voilà, j'ai aucune tolérance pour ça. Je leur dis, vous n'êtes pas obligés d'aller au Club Med ensemble l'été. Je comprends tout à fait. Mais j'ai zéro tolérance pour ce... Voilà.
Commérage interne ou par rapport aux patients, tu veux dire?
Interne ou négatif, voilà. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans des cabinets où il y avait des gros staffs et puis il y avait un peu des clans, des gens qui ne s'aimaient pas, blablabla.
D'accord.
Et ça, j'ai zéro tolérance pour ça. On n'est pas à l'école maternelle. Donc, ça, c'est aussi, quelque chose que j'instaure. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Tu es strict?
Non, sur ça, oui. Sur le reste, non, mais sur
c'est
ça,
bien.
Oui. Ça, j'ai zéro tolérance pour ça. Voilà.
Est-ce que tu as des conseils, en fait, justement, pour des gens qui aimeraient partir, faire, je sais pas, des études médicales, des études aux États-Unis? Enfin, je veux dire, t'es parti à 18 ans, tu savais que t'avais a priori pas envie de rentrer, mais je veux dire, t'as fait un sacré parcours, quoi, depuis.
Qu'est-ce que je leur dirais? Déjà, quand on est au lycée, quand on a 15-16 ans,
ça
de faire des expériences l'été dans les écoles américaines. Moi, j'avais fait 6 semaines d'études internationales à Harvard, qui m'avait beaucoup aidé quand j'avais 17
ans.
À Boston. Ou même si c'est en Angleterre, même si où que ce soit, des expériences en anglais pour être déjà un peu préparé, parce que le domaine universitaire anglo-saxon est très différent du système universitaire français, dans la mesure où on est tous ensemble avec différents majors. C'est pas en école médecine, en école de droit, donc ils assument qu'à 18 ans on n'est pas prêt pour savoir ce qu'on veut faire, ce que je trouve extraordinaire,
ce qui est vrai.
Donc déjà s'adapter à ça, et après spécifiquement aux États-Unis, moi si je devais le refaire, et que vous n'avez pas la chance comme moi d'avoir une mamie fantastique, de faire un community college pendant 2 ans, ça coûte pas très cher, d'avoir quelques petits boulots à côté, garder un peu d'argent,
et après transférer,
ou à bout de 2 ans, c'est faisable, c'est dur, ça demande beaucoup de travail. Moi comme j'ai dit, moi je travaillais 30 à 40 heures par semaine en plus de mon boulot, ma deuxième, troisième et quatrième année, donc il faut beaucoup de discipline, mais c'est faisable, et puis on est dans une culture où c'est normal. Je veux dire, moi, mon roommate, c'était pareil, il était tout le temps entre le boulot ou l'école. Donc, on est un peu dans ce moule-là. Et mon autre, pour moi, c'est de s'intégrer. On est français, bien évidemment, on a une culture extraordinaire. Mais si on vient aux États-Unis que pour être avec des Français et pas avoir un seul. Vaut mieux rester en France. Enfin, excuse-moi, mais c'est mon opinion. Toi, t'es marié avec un Américain, donc tu sais de quoi je parle.
Donc ça y est, j'ai validé, j'ai passé le test.
Tu as passé ton test, exactement.
Est-ce que tu as des conseils pour s'intégrer? Parce que c'est pas toujours facile. Un truc que moi j'entends beaucoup de la part de Français aux États-Unis spécifiquement, ou en Amérique du Nord, c'est les gens sont très accueillants, très avenants, etc. Mais on n'arrive pas à passer le pas de la porte de chez eux, quoi. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas à construire un peu plus loin finalement que cette première façade. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué ou est-ce
que... C'est très vrai, mais moi je trouve aussi que ça peut dépendre. C'est un très grand pays.
Il y a beaucoup
de cultures qui sont internes, qui sont différentes. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup la Californie, c'est magnifique, mais on a un côté fake qui est un peu plus présent quand même.
Ah ouais.
Que les gens ici sont quand même beaucoup plus vrais. Donc ce côté-là est un peu moins présent. Mais c'est vrai qu'en France, les gens sont un peu plus durs au premier abord, mais un ami est un vrai ami en France.
C'est ça, une fois qu'on t'a ouvert la porte, tu peux revenir.
Donc il faut peut-être un peu plus d'échanges, mais c'est aussi parce que c'est un pays qui est beaucoup plus bordé sur le travail et la famille. Le côté ami est un peu moins qu'en France. On aime. Ce qui me manque beaucoup, c'est qu'on sait arrêter le temps. C'est boire un café, s'arrêter. Ici, c'est soit tu aimes ma famille, soit il y a un intérêt professionnel.
Souvent. Ou il y a un intérêt ultérieur.
Il y a moins de amis.
Et pourtant, tu vois, c'est ce qu'on nous vend la pop culture américaine. Je veux dire, tu vois Friends, How I Met Your Mother. Non, mais tu vois ce que je veux dire? La pop culture américaine nous vend ces groupes d'amis, presque famille, en fait. Mais c'est pas aussi évident que ça, en fait, à reconstruire, quoi.
C'est pas aussi évident que ça, c'est vrai. Mais après, c'est un peu comme tout. Des choses qui prennent du temps. Moi, mes meilleurs amis, je les ai depuis le collège. Voilà, parce qu'on avait 18 ans, on était cons. Donc voilà, maintenant, on a 30, 35 et on continue à se parler. Mais c'est vrai que quand on rencontre des gens comme ça, c'est un peu plus difficile. C'est vrai. Et c'est pour ça que je fais ce podcast. J'aimerais beaucoup avoir un peu plus d'amis français ici. Ça me manque un peu, mais
Merci beaucoup Ben. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter, un truc auquel j'ai pas pensé?
Non, merci beaucoup. Sauf que ce que tu fais est exceptionnel. C'est vraiment bien. Je trouve que même pour moi, j'en ai écouté quelques-uns et vraiment on se ressent un peu. On fait partie un peu d'une communauté. Donc c'est vraiment génial ce que tu fais. Donc merci beaucoup de me recevoir. J'espère que les gens ne sont pas endormis de mon histoire.
Si vous êtes toujours là.
Si vous êtes toujours là. Voilà. Je vous remercie aussi.
Merci beaucoup Ben. Excellente continuation.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Ben pour ce chouette moment passé ensemble et puis j'espère que vous aussi, vous aurez appris des choses et que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, retrouvez-nous sur Spotify pour répondre au quiz ou pour laisser un petit mot, ainsi que sur Apple Podcasts, ça compte toujours énormément. Tradition oblige, je vous propose un petit extrait pour découvrir ce dont nous allons parler la semaine prochaine.
Tu passes un peu au second plan, entre guillemets. Moi, je me suis mis la pression parce que justement je travaillais pas, donc c'était mon rôle à moi de faire que tout soit, tu vois, nickel, enfin que tout roule, que mon mari n'ait pas à gérer et pas à faire d'intendance ou à gérer des trajets et tout ça, parce que lui il rentre du boulot et que moi je bosse pas, donc c'était normal à moi que je le fasse. Mais en même temps, ce que je fais aujourd'hui, je le faisais quand on était en France. Cette partie intendance de la maison, toute la paperasse, l'administration, tout ça, c'était moins compliqué au niveau de la paperasse, mais je gérais déjà tout ça en France, avec un travail à plein temps. Et il y avait des fois où, quand je parlais à mes copines en France, je me disais, mais comment je faisais avant pour gérer tout ça, alors qu'aujourd'hui, je ne travaille plus et je me sens encore plus débordée qu'avant. Peut-être parce qu'au final, sans s'en rendre compte, on se met plus la pression, parce qu'on sait qu'on ne travaille pas, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que si tu te plains, on va te dire, mais attends, mais tu bosses pas. Tu sais, des fois, tu as des remarques. Tu fais, ouais, mais tu as la belle vie. Enfin, tu travailles pas, tu as la belle vie, tu pars en week-end, tu voyages, tu visites les États-Unis. Franchement, c'est top. Et après, les gens, j'ai envie de leur dire, ouais, c'est top, mais tout le monde t'envie, tout ça, te dit que tu as la vie facile. En même temps, moi, ces gens, des fois, je leur disais, mais t'as eu le courage, toi, de tout plaquer? T'as eu le courage de partir, laisser ta famille, tes amis, t'aventurer dans un nouveau pays? Peut-être que tout semble facile, tout semble facile sur les réseaux sociaux parce que t'as pas envie de partager non plus, t'as pas envie de te plaindre parce que tu as peur d'être jugé. Je pense que voilà, en tant que femme d'expat, conjoint d'expat, on peut dire femme parce qu'il y a peut-être des hommes aussi, même si tu fais la même chose que ce que tu faisais en France, t'as la même charge de travail, t'as pas d'excuses, quoi. En France, si tu t'as pas envie de faire le repassage parce que j'ai fini mon boulot, mes 35 heures, j'ai pas envie de faire le repassage à la maison, on va te dire ouais, ok, ici, si je fais pas mon repassage, mais t'as fait quoi toutes les journées? Souvent j'ai cette question là, t'as fait quoi aujourd'hui? Mes enfants, t'as fait quoi aujourd'hui? Rien, je suis restée en pyjama toute la journée, j'ai regardé la télé. Non mais sérieux.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une fantastique fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.
Ok, si vous êtes à Denver.
Ouais, exactement.
Vous voulez venir parler français avec le dentiste.
Pendant que qu'il ne peut pas répondre, justement parce que la bouche est ouverte, c'est exactement ça. Voilà, ce serait l'amitié parfaite pour moi. Voilà, exactement.
C'est hyper bizarre comme conversation pour moi, on est dans ton élément.
Voilà, mais je veux pas que les auditeurs s'endorment, ils vont dire ah non, je mets l'épisode d'après, ça devient chiant. Non.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.